Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un basketteur français hors norme à tous égards, Victor Wembanyama. Il y a un an, toutes les équipes de la NBA convoitaient le prodige de 2m24. Depuis, il a rejoint l'équipe des San Antonio Spurs et réalisé une saison historique. Cette saison, elle vient de se terminer, mais vous allez très vite entendre reparler de cet athlète de 20 ans seulement, puisqu'il doit participer cet été aux Jeux Olympiques de Paris. Alors, quelles sont les clés de son incroyable succès? Comment chaque étape de son parcours a-t-elle été pensée pour accomplir son rêve américain? Et peut-il aider l'équipe de France de basket à gagner la médaille d'or? Clément Martel est chef adjoint du service des sports, il nous raconte. Et restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode pour retrouver le 6e volet de notre podcast Terrain de jeu. Aujourd'hui, on vous parle de Jerry Lecomte, un sprinteur de Saint-Denis qui a lancé une cagnotte en ligne pour financer sa préparation aux Jeux Olympiques. Mais tout de suite, Victor Wembanyama, le phénomène français du basket, un épisode de Majid Benasseur, réalisation Florentin Baume.
Bon, c'est quoi ce délire?
On a besoin de ton aide!
Nous sommes au mois de février 1996. Le film Space Jam, qui mêle vrais acteurs et images d'animation, vient de sortir au cinéma. L'intrigue est aussi simple que loufoque. Pendant un match de basketball, une bande de Looney Tunes, aidée de la superstar Michael Jordan, affronte des aliens.
Ils pourraient bien sauver le monde.
L'enjeu est de taille, s'ils perdent le match, les Looney Tunes deviendront les esclaves des extraterrestres. Et une scène du film marque particulièrement les esprits. Le joueur des Chicago Bulls réalise un dunk, une action spectaculaire qui consiste à smasher le ballon dans le panier. Sauf que là, Michael Jordan y parvient depuis le milieu de terrain, en étirant son bras sur plus de 10 mètres, sous les regards ébahis de ses coéquipiers, Bugs Bunny et sa bande. Et si je vous disais que près de 30 ans plus tard, un joueur fait des actions presque aussi impressionnantes en NBA, mais cette fois sans effets spéciaux? Son nom, Victor Wembanyama. La scène se passe le 31 décembre 2023. Les San Antonio Spurs affrontent la meilleure équipe de la ligue, les Celtics de Boston. Ils sont largement menés au score, mais le joueur français va quand même voler la vedette à ses adversaires avec un moment digne de Space Jam. Wemby, comme on le surnomme, reçoit la balle en contre-attaque et se dirige seul vers le panier adverse. Un joueur des Celtics sprint alors vers le géant pour défendre, en vain. Alors qu'il semble encore très loin du panier, Victor Wembanyama s'élance et dunk par-dessus la tête de son adversaire avec une facilité déconcertante.
Ah, pauvre Derek White, on t'aime, mais cette vidéo va devenir virale.
Salut Clément.
Salut Jean-Guillaume.
Alors Clément, toi qui suis le basket et Victor Wembanyama depuis longtemps, est-ce que tu peux nous dire déjà un mot de cette action qu'on vient de raconter en introduction de ce podcast? C'est rare en NBA?
C'est très rare en NBA, effectivement, même si on est dans une ligue où il y a des athlètes énormes qui sont capables de faire des grandes prouesses, notamment athlétiques. Victor Wembanyama est un phénomène. Il est très grand, beaucoup plus grand que la plupart des autres joueurs, et on le voit faire des actions assez rarement vu, pour ne pas dire jamais vu, y compris celle-là où on a eu vraiment l'impression de voir son bras s'étirer et passer au-dessus de tout le monde sans avoir vraiment l'impression qu'il fait des efforts.
Et alors Clément, on dit de ce joueur qu'il est une licorne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire?
Au basket, on parle d'un phénomène en fait aux dimensions inattendues, voire inconnues. Ce qu'il est capable de faire avec sa taille, c'est quelque chose d'assez rarement vu. Il a une dextérité et une facilité dans ses mouvements que l'on voit d'habitude sur les joueurs plus petits. Ce qui le rend vraiment unique, c'est son agilité. Au basket, normalement, chaque joueur est cantonné à un poste. Lui, il a la mobilité et la vitesse d'un joueur plutôt arrière ou ailier, donc les plus petits, dans le corps d'un pivot. On parle d'une hauteur de 2m24 et d'une envergure de plus de 2m43. Il sait tout faire. Et d'ailleurs, Stephen Curry, la star des Golden State Warriors, résume vraiment bien la chose.
Yeah, he's like the 2K creator player.
C'est comme un joueur créé de toutes pièces sur NBA 2K.
Every point guard wants to be 7 foot.
Tous les meneurs voudraient faire 2m10.
Chico type vibe.
Ce gars est un code de triche.
En gros, il sous-entend que c'est un joueur qui a été créé dans un jeu vidéo parce que toutes les caractéristiques qu'il a, il a les meilleures notes partout.
Et alors toi, quand est-ce que tu as entendu parler de Victor Wembanyama pour la première fois? Quand est-ce que tu as commencé à le suivre?
Alors ça remonte un petit peu maintenant, puisque c'était en 2017 et il avait que 13 ans. Il était déjà immense pour son âge et il y avait une petite brève consacrée à lui dans un magazine de basket que je lisais. Donc il mesurait 2m6 à l'époque, pour 13 ans, ce qui est énorme. À l'époque, beaucoup de clubs étaient déjà intéressés par lui, notamment le FC Barcelone, et cette équipe a essayé de le recruter. Il a fait des tests avec eux, mais finalement est resté à Nanterre, son club formateur, parce que son entourage, et à commencer par ses parents, ont décidé de le laisser en France.
Et alors, justement, parlons-en de son entourage. Dans quel cadre est-ce que Victor Wembanyama a grandi quand il était petit?
En fait, tout le monde dans la famille de Victor Wembanyama est grand. Ses parents étaient déjà des athlètes de assez haut niveau. Son père était un sauteur en longueur et triple sauteur. Sa mère est une ancienne basketteuse qui a notamment évolué en National 1, le plus haut niveau féminin à son époque. Elle est ensuite devenue coach. Il a par ailleurs un frère et une sœur qui, eux aussi, font du sport à un assez haut niveau. En fait, dans cette famille, il y a un vrai côté, tout est possible, et notamment, tout a été fait, en fait, pour entourer ce phénomène.
Ok, donc si je te suis bien, Victor Wembanyama suit donc les traces de sa mère, d'abord, en optant pour le basket. Est-ce qu'il a toujours été au-dessus du lot dans ce sport, dès le début?
Il a toujours dominé, a priori, mais ça n'a pas été toujours simple et un chemin très facile. Parce que au basket, quand t'es grand, on te cantonne souvent dans un poste particulier, le pivot, y compris chez les enfants. Dans l'idée, c'est-à-dire plus on est grand au basket, plus c'est facile de marquer. Et donc, pour faire gagner une équipe, certains coachs préfèrent mettre les grands joueurs en taille sous le panier plutôt que les laisser se développer. Et lui a vécu ça un peu puisqu'on a voulu le faire rentrer dans une case traditionnelle de pivot. Mais Victor Wembanyama a eu de la chance, celle d'arriver à une période où on te cantonne moins à un poste et le basket s'est vachement éloigné des postes et des stéréotypes, ce qui lui convient bien puisque lui, c'est un très grand joueur, mais malgré tout avec une dextérité incroyable pour sa taille, capable de tirer de loin et de faire des mouvements que l'on voit jamais des joueurs de sa taille faire.
Et après ses débuts prometteurs, Wembanyama devient professionnel donc à seulement 15 ans en 2019. Comment ça se passe à ce moment-là?
Il commence à Nanterre, donc il alterne à cette époque à 15 ans entre niveau professionnel et l'équipe espoir, ce qui est déjà une sorte d'exploit parce qu'il est vraiment très jeune pour même pour les espoirs. Il devient rapidement meilleur espoir du championnat de France, c'était en 2021, et après avoir un peu vadrouillé dans le championnat de France entre différentes équipes, c'est aux Metropolitans de Boulogne-le-Valois qu'il explose vraiment. C'est un an avant la draft, dont on parlera tout à l'heure, en fait, la sélection des meilleurs joueurs jeunes pour la NBA, et là, ce club met tout pour le développer. Ils font tout pour le faire exploser. Le club organise même une tournée aux États-Unis à l'automne 2022, où ils affrontent, alors que le championnat de France se déroule, la meilleure équipe de jeunes des États-Unis pour vraiment mettre le phénomène Wemby sur orbite. C'est à partir de là que la NBA s'y intéresse, que tous les joueurs NBA se disent « mais c'est quoi ce joueur ?» et en France, tout le monde a envie de voir ce phénomène. Les matchs sont à guichet fermé, tout le monde n'a que Wembanyama à la bouche, et même les grandes stars et les anciens, y compris Magic Johnson, donc une grande star des années 80-90, poste une photo sur Twitter en disant « J'ai eu la chance de rencontrer le meilleur joueur du monde ». D'ailleurs, même la NBA surfe sur le phénomène en achetant les droits pour diffuser le championnat de France et les matchs de Wemby.
Ok Clément, donc après ses débuts brillants en France, la prochaine étape c'est donc l'Amérique. Victor Wembanyama se présente à la draft de la NBA, le championnat américain de basket le plus connu au monde. Alors, toujours pour celles et ceux qui ne sont pas trop familiers avec le jargon du basket, ça veut dire quoi exactement la draft?
Alors, effectivement, après cette saison où il a tout remporté sauf le championnat de France, mais il a multiplié les trophées, il se présente à la draft. En gros, c'est une sorte de bourse aux jeunes joueurs n'évoluant pas encore en NBA, dans cette ligue privée où l'intérêt est que les 30 équipes soient le plus compétitives possible. La NBA a organisé un système qui permet aux moins bonnes équipes de s'améliorer en récupérant les meilleurs jeunes. ce qui permet à long terme en fait d'avoir des matchs plus intéressants et donc plus d'argent.
Ok, donc si je te suis bien, ça veut dire que les moins bonnes équipes de la NBA pourront sélectionner en premier les meilleurs joueurs hors NBA dans cette draft-là, dont sans doute Victor Wembanyama.
Exactement, il y a quelques règles dont on ne va pas rentrer dans les détails puisqu'il y a un principe de loterie et la NBA a mis des règles pour éviter de faire exprès de perdre pour s'assurer d'avoir le numéro 1 de la draft. Donc le numéro 1 de la draft, c'est-à-dire Victor Wembanyama l'année dernière, mais c'est exactement ça. Un mois avant la draft, on a su qui avait le premier choix et donc qui avait le droit de sélectionner Victor Wembanyama.
Avec le premier choix de cette draft NBA 2023, les San Antonio Spurs choisissent
Victor Wembanyama
de Nanterre en France.
Et c'est tombé sur les San Antonio Spurs, l'équipe que la France connaît bien puisque c'était celle de Tony Parker au début des années 2000.
Et donc, première saison chez les Spurs, l'ancienne équipe de Tony Parker, où il était particulièrement attendu. Voilà, il y a même une chanson en son honneur. Clément, les attentes étaient donc très élevées et je le disais en introduction, il a été plus qu'à la hauteur pour cette première année en NBA.
Effectivement, individuellement, il fait une saison à la hauteur, voire au-delà de toutes les attentes qui pesaient sur ses épaules. En termes de statistiques, en fait, il a signé une première saison à la hauteur de celle des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. On parle d'une saison à plus de 21 points de moyenne, 10 rebonds, 4 passes et quasiment 4 contres par match, le tout en jouant assez peu à l'échelle d'une rencontre, c'est-à-dire autour de 30 minutes ou un petit peu plus en moyenne, sur une rencontre de 48 minutes. Avec son envergure et sa manière de jouer, même les meilleurs joueurs rapidement se rendent compte que c'est très très difficile de défendre sur lui. Et en parallèle, en défense, il a posé d'énormes problèmes très rapidement à toute la NBA, au point de s'ériger dès sa première saison comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Après, contrairement à sa saison individuelle, celle de son équipe est vraiment mauvaise. Les Spurs ont signé le 5e pire bilan de la NBA. Donc s'il brille individuellement, ce n'est pas le cas de son équipe au niveau collectif.
Donc même si ça n'a pas suffi à faire gagner son équipe, Victor Wembanyama réalise donc, tu le disais, une première saison impressionnante. Alors comment est-ce qu'il a fait pour s'adapter au niveau de la meilleure ligue de basket du monde aussi vite?
Alors déjà, il s'est adapté physiquement. Donc depuis ses premiers pas sur un terrain de basket professionnel, c'est assez impressionnant de voir sa transformation puisqu'il s'est énormément musclé.
And I've been lifting a lot, probably as much as I play basketball.
Je fais beaucoup de musculation, probablement autant que je joue au basket. Et c'est un rythme que j'essaye de garder, toute cette musculation pendant la saison.
Et ça a continué après son arrivée aux États-Unis. En fait, la saison régulière NBA dure 82 matchs, là où le championnat de France, par exemple, n'en comptait que 34. Donc, en jouant presque tous les soirs, il y a une demande et une exigence physique bien plus importante pour un joueur comme lui et pour les autres, ce qui oblige à se densifier et donc gagner en muscle.
Et donc, il a une routine ?
Il a une routine physique d'avant-match qu'il suit. Il est très assidu là-dessus. C'est quelque chose qu'il fait depuis avant son arrivée en NBA. Il faisait déjà la saison dernière avec le même préparateur physique, Guillaume Melquier, qui travaille avec lui depuis un certain temps. C'est une routine où on le voit s'étirer énormément, faire des roulades, travailler chaque muscle en amont, puisqu'on parle d'une personne hyper impressionnante physiquement, mais il a besoin d'activer un peu tout pour être sûr d'être le plus mobile sur le terrain, ce qui normalement n'est pas le cas d'un joueur de sa taille.
Donc il s'est bien adapté physiquement, mais aussi médiatiquement. On l'a dit, il fait l'objet d'une incroyable frénésie. Il faisait l'objet avant même son arrivée en NBA et ça n'a pas semblé beaucoup l'impressionner, Clément.
Effectivement, c'est quelque chose qu'il accepte avec beaucoup de facilité et il a un peu toujours travaillé pour ça, on a l'impression.
Personnellement, j'aime bien avoir une relation sur le moment avec les fans, dans le public, parce que c'est une relation un peu... comment dire, de symbiose. Ils nous aident autant qu'on les aide.
Il était bilingue avant son arrivée en NBA et aujourd'hui, on le voit faire des plateaux, des shows américains sans aucun souci. On voit que son entourage l'encadre beaucoup, le protège beaucoup aussi puisqu'il reçoit énormément de demandes, que ce soit médiatiques, de sponsors, de fans aussi évidemment. Tout est fait en fait pour le protéger, le laisser dans son cocon, qui est très large, et l'empêcher de brûler les étapes. On le laisse grandir justement pour arriver à un très très haut niveau, ce qu'il vise volontairement. Au moment de faire le bilan de sa première saison, lui, il dit qu'il a encore beaucoup de potentiel à développer, mais était plutôt satisfait. Et en fait, comme on peut l'entendre, son coach Greg Popovich, qui était déjà celui de Tony Parker, salue sa maturité pour son âge.
Il n'est pas intéressé par la hype ou quoi que ce soit de ce genre. Il veut juste devenir un grand basketteur, profiter de sa vie, de sa famille et de ses amis. Il n'est pas fan de lui-même, pour ainsi dire. La célébrité qu'il a déjà acquise ne l'affecte pas vraiment. Il gagne avec classe et perd avec grâce. Nous avons de la chance de pouvoir construire autour de quelqu'un qui a un tel caractère.
Et Clément, au-delà de ce personnage médiatique à l'aise sur les plateaux, qu'est-ce qu'on sait de lui, de son caractère? Qu'est-ce qu'il est en dehors des terrains de basket?
Il renvoie l'image d'un mec sympa, assez simple, à la différence de pas mal de joueurs qui sont branchés basket en permanence, qui ne parlent que de ça, ne pensent que ça, ne vivent que pour ça. On sent qu'il a son univers un peu à part. Il a un univers un peu geek et il assume. Il est très fan de littérature de fantasy. Il dessine et il adore ça. Il a un peu son monde à lui et finalement, c'est celui d'un gamin de 20 ans, un peu comme tout le monde, dans une certaine mesure. Après, c'est très dur de le dissocier du basket. Il vit pour son sport et personne ne l'a forcé à le faire, à la différence d'autres joueurs, notamment qui étaient très grands et qu'on a un peu poussé à réussir là-dessus. Je pense notamment au chinois Yao Ming dans les années 2000. Wembanyama, c'est une sorte de gendre idéal. Il est devenu récemment l'égérie de la marque Louis Vuitton. Et d'ailleurs, on le compare assez souvent à Kylian Mbappé au foot. Les deux ont cette mentalité un peu américaine de « je veux laisser une trace dans l'histoire, dans mon sport, et je vais tout faire pour y arriver ».
Et alors cette marque dans l'histoire, Clément, il pourrait peut-être la laisser lors d'une échéance qui arrive tout bientôt, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors est-ce que Victor Wembanyama a déjà brillé avec l'équipe de France de basket?
Effectivement, Wemby, comme on le surnomme, a déjà quelques sélections avec l'équipe de France de basket. Il a surtout brillé avec les équipes de jeunes. Il a décroché l'argent à la Coupe du Monde des moins de 19 ans en 2021. En perdant face aux États-Unis de Chet Holmgren, qui est devenu un peu son adversaire principal, y compris cette saison à NBA, c'est un autre phénomène aux dimensions improbables. En revanche, si Victor Wembanyama n'a pas évolué en équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde en 2023, où les Bleus ont rapidement perdu et sont un peu tombés de haut, puisqu'il venait d'être sélectionné par les Spurs, qui ont préféré le développer et le laisser se reposer avant une grosse première saison. Donc les Bleus, qui sont médaillés d'argent aux derniers Jeux Olympiques, auront cette volonté de se rattraper à la maison en plus, et ils comptent sur Wembanyama pour les aider à conquérir l'or olympique, qui serait une première dans l'histoire du basket français.
Et alors maintenant, Clément, qu'il fait partie de l'équipe de France, est-ce que ça donne plus de chances aux Bleus de remporter une médaille d'or?
Ça va être très compliqué, mais pour toutes les équipes. Et bien sûr, la question importante par rapport à Victor Wembanyama, c'est comment est-ce qu'il va s'intégrer dans ce collectif? Ça prend du temps au basket d'avoir une équipe qui fonctionne. On l'a vu récemment, puisqu'en 2023, c'est l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde. Et eux n'ont pas les meilleurs joueurs du monde du tout. Par contre, ils avaient la meilleure équipe et ils avaient trouvé l'alchimie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Au JO de Paris, toutes les équipes vont arriver avec leurs plus grandes stars et la question sera laquelle va mieux s'en sortir collectivement. Wembanyama doit s'intégrer. Après, il y a une chance en équipe de France, c'est que l'entraîneur Vincent Collet était aussi son coach lors de sa saison l'année dernière à Levallois, ce qui lui permet aussi de savoir comment jouer avec lui. Ce qui n'est pas forcément très simple. Cette année, par exemple, on a vu que le coach des Spurs a mis du temps à comprendre juste comment manipuler un tel phénomène.
Merci Clément.
Merci Jean-Guillaume.
Pour en savoir plus, je vous invite à retrouver tous nos articles sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 en vous rendant sur lemonde.fr. Et tout de suite, comme promis, je vous propose de découvrir le 6e épisode de notre podcast Terrain de jeu, réalisé avec l'association Sport dans la ville avec le soutien de Visa. Némi Ntoya a rencontré Jerry Lecomte, un sprinter et étudiant en psychologie originaire de Saint-Denis qui va tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il lui raconte ses difficultés à conjuguer son entraînement sportif, ses études et son job étudiant, car la réussite n'est pas qu'une question de talent, c'est aussi une question d'argent. Terrain de jeu, à vos marques, prêts, partez.
Bonjour, je m'appelle Némi Ntoya, bienvenue dans Terrain de jeu. Durant cette année olympique, nous nous retrouverons chaque mois dans ce podcast pour vous raconter les Jeux du point de vue des habitants de la Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Jerry Lecomte. Il est sprinteur originaire de Saint-Denis et il a lancé une cagnotte en ligne pour financer sa préparation aux JO.
Moi, c'est Jerry Lecomte, j'ai 23 ans. Actuellement, je prépare les Jeux Olympiques. Ma spécialité, alors, du coup, c'est le 100 mètres et le 4x100 mètres. Je suis également en études de psychologie, en fac de psycho. Et j'ai bossé d'août à janvier pour financer ma saison. Sauf que c'était un rythme assez ardu. Par exemple, je faisais des 6h-22h plusieurs fois dans la semaine. Et c'était vraiment compliqué à faire, en fait, tout simplement. Ça ne matche pas avec le haut niveau. Comment prétendre vouloir performer en sachant qu'on éparpille un peu notre énergie partout. Donc voilà, c'est pour ça que, arrivé en fin janvier, début février, je me suis dit, je vais arrêter de bosser tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai lancé ma cagnotte en janvier pour que je puisse arrêter sereinement. C'est pas forcément une fierté d'avoir lancé une cagnotte, mais en fait, je sais que j'ai ce potentiel-là pour les Jeux. Et c'est les Jeux Olympiques à Paris en 2024, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Moi, je suis né à Saint-Denis, j'ai grandi à Saint-Denis. J'ai commencé l'athlète avec ma sœur jumelle, parce que j'ai une sœur jumelle aussi en équipe de France. Et on prépare les Jeux tous les deux. Et depuis mes 15 ans, j'ai ce projet de vie, clairement un projet de vie, que sont les Jeux Olympiques de Paris. Mes parents, ils m'ont toujours encouragé, hein, honnêtement, ils m'ont toujours suivi. Parce que c'était un projet, en fait, pas que le mien, mais celui de ma sœur également. Donc forcément, ils étaient ravis. Ils m'ont toujours accompagné justement pour que je puisse donner le meilleur de moi-même. Après, je pense pas qu'ils avaient cette conscience-là vis-à-vis de la réalité financière qu'il y a. Après, c'est normal, ils ont pas baigné dans ça, ils connaissent pas forcément. Dans l'inconscient collectif, en fait, on a l'impression que les sportifs de haut niveau vivent de leur sport, etc. Quand on les voit à la télé, on pense que ils sont riches ou alors en tout cas qu'ils sont assez aisés. Mais ça représente qu'une poignée. En tout cas, dans l'athlétisme, ça représente qu'une poignée. Parce qu'en fait, la France n'est pas un pays de sport. Le sport de haut niveau n'est pas vu comme un métier, n'est pas considéré comme tel, en fait. En moyenne, un athlète de haut niveau, c'est 25 heures par semaine, voire 30 heures par semaine, mais il n'y a pas forcément de revenus financiers. On met quand même de notre énergie, mais à côté, on est obligé de dealer avec un travail, avec des études. Et quand on voit que dans certains pays, c'est considéré, on part avec un désavantage. Aux États-Unis, par exemple, quand tu es un athlète de haut niveau, tu peux prétendre à de grandes écoles, par exemple. Alors que moi, on me disait, tu dois choisir entre l'école et le sport, mais tu ne peux pas faire les deux. Ça, on me l'a toujours dit, parce que c'est ancré dans la culture française, tout simplement. Un athlète a besoin de 20 000 euros pour financer une saison olympique, parce qu'il y a pas mal de choses, tout simplement, à financer lorsqu'on prépare les Jeux. Il y a les stages à l'étranger. Le coach, la préparation mentale, tout ce qui est soins en fait, donc le médecin, le kiné, la mésothérapie, la cryothérapie, etc. Il y a également les déplacements en compétition, donc mon billet de train, la chambre d'hôtel, plus la compétition en elle-même, etc. Donc voilà, pas mal de choses. Là, actuellement, j'ai récolté 7000 euros. Je m'attendais pas à tout ça, honnêtement. Et ce qui va déterminer ma qualification pour les Jeux, ça va être les championnats de France. Donc là-bas, en fait, il va falloir être prêt le jour J, battre la concurrence et être premier pour maximiser ses chances. Mon record, c'est 10,39 sur le 100 mètres. Voilà, c'est un record qui date de 2022, donc je sais qu'aujourd'hui, je suis plus rapide que ça. Mais voilà, maintenant, il faut le mettre sur le papier.
Vous pouvez retrouver Terrain de jeu sur votre application de podcast préférée. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode de L'Heure du Monde. Bonne journée.